Mercredi 6 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'enquête sur l'incendie criminel qui a ravagé un immeuble du 16e arrondissement à Paris. Dans la nuit de lundi à mardi, la femme interpellée a finalement été admise à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Témoignage et enquête dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
La loi anti-casseurs est comme un début de fronde dans la majorité. Donald Trump persiste et signe devant le Congrès. Le mur sera bien construit à la frontière avec le Mexique. La pénurie de médicaments au Venezuela et puis la favori aux Oscars.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Il est un des écrivains français les plus connus et les plus reconnus, mais il ne vient pas ce matin nous présenter son nouveau roman, mais un livre qu'il a préfacé. Un livre de guerre comme vous n'en avez jamais lu. Écrit en 1963 et depuis introuvable. Il raconte 82 rêves de Français ordinaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Un témoignage historique, psychanalytique, littéraire absolument fou qui est réédité aux éditions Allary. C'est Emmanuel Carrère qui viendra nous en parler à 7h50.
A tout à l'heure Léa. 8h20, sur quelle ligne politique partent les Républicains aux élections européennes? On posera la question à l'eurodéputé Arnaud Danjean. Il est troisième sur la liste LR et invité du grand entretien tout à l'heure. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Les rescapés du 17 bis rue Erlanger ont trouvé refuge chez des proches ou ont été hébergés à l'hôtel pour la nuit, essayant de trouver un peu de repos après le cauchemar. C'était dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h du matin, des hurlements, de la fumée, des alarmes incendies. Plusieurs étages de cet immeuble de 8 étages sur cour sont en feu. Commencent alors de très longues minutes d'angoisse avant l'arrivée des pompiers. Une angoisse que cette jeune habitante de l'immeuble a confiée à Béatrice Duguay.
Claire est sauve depuis plusieurs heures, mais elle tremble encore de tout son corps, choquée au point de ne pas s'extraire du cauchemar.
Je me vois sauter ou mourir brûlée.
Ce sont les alarmes et les cris qui la réveillent vers minuit. La fumée noire envahit déjà l'atmosphère. Elle sort sur son balcon, passe au-dessus du vide pour trouver refuge à l'abri d'un mur.
Les flammes étaient juste à côté de moi, au 8e étage. Je me suis cachée derrière un mur en pierre avec 3 personnes qui étaient dans le vide et qui sont suspendues à des barreaux. Je les ai aidés à monter, on était deux à les avoir aidés à monter du 7e. Ils étaient déjà montés le 16e en escaladant les bords de fenêtres. Et il y avait encore des gens dans les appartements.
Les pompiers atteignent le groupe après de longues minutes, après d'autres sauvetages dans les étages du dessous. Claire est descendue en rappel, aspergée par les lances incendies qui repoussent les flammes et la chaleur. Trempée, pieds nus, en hypothermie, elle est vivante, mais encore terrifiée par cette nuit terrible.
C'est les bruits, la souffrance des gens, de les avoir vus presque... Je ne sais pas s'ils sont jetés par la fenêtre, mais je voyais les flammes qui arrivaient derrière eux. Et ils étaient sur le rebord de leur fenêtre. Et les pompiers n'étaient pas là. Et je ne sais pas s'ils sont morts ou pas. C'est tous ces bruits, en fait. Cette souffrance, tous ces hurlements qui me hantent.
Claire a pu confier sa détresse à un psychologue en fin de journée.
Et le bilan est donc ce matin de 10 morts, un blessé grave et une trentaine de blessés plus légers, dont 8 pompiers. Un bilan très lourd pour un incendie d'origine criminelle. Une femme d'une quarantaine d'années a été interpellée tout près de l'immeuble alors qu'elle tentait de mettre le feu à un véhicule et à une poubelle. Il s'agit d'une habitante de l'immeuble qui s'était disputée avec un de ses voisins en début de soirée. Le jeune homme avait d'ailleurs appelé la police pour tapage nocturne. La police était intervenue pour ramener le calme avant de repartir. On sait aussi ce matin que cette femme, qui a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, a fait l'objet de 2 plaintes classées sans suite en 2016, dont l'une dans une affaire d'incendie de magasin, et qu'elle était encore hospitalisée tout récemment. Daniel Messager.
Cette femme avait été hospitalisée sous contrainte à l'hôpital Sainte-Anne. L'hospitalisation sous contrainte ou sans consentement émane ou d'un tiers, avec une certification de médecin ou du préfet. Cela signifie qu'elle pouvait présenter un trouble à l'ordre public, qu'elle était un danger pour elle-même ou les autres. Mais dans quelles circonstances est-elle sortie de l'hôpital il y a quelques jours? C'est ce qui reste encore à déterminer. À 12 jours maximum d'hospitalisation sans consentement, le patient doit voir un juge qui, généralement, suit l'avis des psychiatres. Alors ceci était-il favorable à sa sortie? Ou bien y a-t-il eu un vice de procédure, une erreur administrative qui oblige le juge à la libérer? Elle est depuis hier après-midi à l'infirmerie psychiatrique de Paris. Cette structure dépend de la préfecture de police, mais sans policier à l'intérieur. C'est un SAS pour évaluer Les portes y sont verrouillées et les lits cloués au sol. La personne y reste 48 heures maximum. Elle sera ensuite soit remise aux autorités de police, soit hospitalisée, avec peut-être un transfert vers une unité pour malades difficiles, un service psychiatrique spécialisé pour des personnes ayant besoin d'une surveillance particulière.
France Inter, 7h05. Un Premier ministre, un grand débat et des partenaires sociaux.
Gilets jaunes et gilets rouges, hier dans les rues de Paris et de France, à l'appel de la CGT, 14 000 personnes dans la capitale selon le cabinet de comptage indépendant Occurrence, 300 000 dans toute la France selon la centrale syndicale et le Premier ministre qui va tenter aujourd'hui de renouer le lien avec les partenaires sociaux. Édouard Philippe reçoit à Matignon une vingtaine d'interlocuteurs dont la CFDT, FO et le MEDEF. Le débat aussi au sein de la majorité avec 50 députés La République En Marche qui se sont abstenus hier lors du vote sur la loi dite anti-casseurs et certains envisagent même de voter contre en deuxième lecture si le texte n'est pas adouci. Reportage dans les couloirs de l'Assemblée, signé Laurence Perron.
On tourne en rond là.
Il est agacé, le patron des députés de La République En Marche, lorsqu'en sortant de l'hémicycle, il est assailli par cette question. Alors Gilles Legendre, c'est le début de la fronde.
Vous aimeriez me faire dire ça, mais c'est inexact. Il n'y a pas de malaise.
Pas de fronde, donc, juste l'expression d'un groupe aux sensibilités diverses. Les marcheurs qui se sont abstenus sont un peu plus corrosifs.
C'est vraiment un texte qui me pose problème.
Martine Vonneur, députée du Bas-Rhin, qui s'était déjà abstenue en avril dernier sur la loi Asile et Immigration l'assure, elle ne donnera pas sa voix à un texte définitif qui conserverait en l'état l'article 2, celui qui confie au préfet plutôt qu'au juge judiciaire l'interdiction de manifester.
J'avais particulièrement envie de voter contre. En tant que médecin, quand on a un jour prononcé le serment d'Hippocrate, c'est particulièrement difficile d'imaginer à quel point on va aller contre les libertés individuelles.
Florian Bachelier, le député En Marche, premier questeur de l'Assemblée nationale, se dit lui très serein.
Je vais vous dire, je m'en fous.
Je n'ai aucun doute sur le fait que cette loi sera votée.
Sans vote contre de votre majorité.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je voterai pour.
Et s'il y a des contre, vous n'allez pas aller...
Je ne mettrai pas ma cagoule pour protester.
Ce qui est certain, en revanche, c'est que La République En Marche ne laissera pas 50 de ses députés rejoindre en seconde lecture les votes de l'opposition de gauche.
Et avant d'examiner cette loi anti-casseurs, les sénateurs se sont penchés hier sur la possibilité de privatiser ADP, Aéroport de Paris, un souhait du gouvernement, mais dénoncé par l'opposition qui s'appuie sur l'exemple de l'aéroport Toulouse-Bagnac. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. L'actualité écho de ce mercredi, c'est aussi l'avis attendu de la Commission européenne sur la fusion annoncée de l'allemand Siemens et du français Alstom. En bref encore, le gouvernement donne son feu vert à la construction du Charles de Gaulle Express, un train rapide qui reliera la gare de l'Est à Roissy en 20 minutes en 2024.
Il est 7h08, le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union devant les élus du Congrès la nuit dernière.
Et dans l'assistance de nombreux élus démocrates habillés en blanc en hommage au centenaire du mouvement des suffragettes, Donald Trump arborait lui une cravate rouge et un costume sombre pour un discours qui se voulait rassembleur après le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Mais le président est resté ferme sur sa volonté de construire un mur à la frontière avec le Mexique.
My administration has sent to Congress a common sense proposal.
Mon administration a adressé au Congrès une proposition de bon sens pour mettre un terme à la crise qui se joue à notre frontière sud. Cette proposition comprend de l'aide humanitaire, des policiers supplémentaires, plus de moyens pour détecter la drogue, mais aussi un plan pour construire une barrière physique, ou un mur, si vous préférez, pour sécuriser les vastes étendues qui séparent chacun de nos postes frontières. Dans le passé, la plupart des gens réunis ici, dans ce congrès, ont voté pour un mur. Mais le mur n'a jamais été construit. Moi, je vais le bâtir. Pour parler simplement, les murs, ça fonctionne. Les murs, ça sauve des vies.
Et c'est une autre frontière qui est ce matin sous les radars de l'actualité. La frontière entre le Venezuela et la Colombie. Des militaires vénézuéliens ont pris position sur un pont pour empêcher l'entrée dans le pays d'une aide humanitaire internationale, pourtant très attendue par la population. Olivier Poujade, l'envoyé spécial de France Inter au Venezuela, a rencontré des médecins démunis.
50% des médicaments de base n'entrent plus aujourd'hui sur le territoire vénézuélien. Ce chiffre, Julio Castro le tient de son propre réseau d'informateurs, né en 2014 pendant la vague de contestation contre le gouvernement de Nicolas Maduro.
Il y avait des blessés dans les rues. Ces blessés étaient transportés à l'hôpital, puis directement en prison.
Les médecins de garde ont commencé à établir un registre national et c'est comme ça qu'est née notre organisation.
Le réseau de médecins de Julio Castro décide alors d'entamer une gigantesque évaluation. Manque d'infirmiers, manque d'eau, plus de matériel médical ni de médicaments. Un système de santé saboté, dit-il, par le gouvernement.
Pour des raisons économiques ou politiques, des gens sont condamnés à mourir. Ils ont abandonné les gens.
En 2015, une loi décrétant l'urgence humanitaire a été votée par l'Assemblée nationale et rejetée par le gouvernement Maduro.
Je ne peux pas envoyer de médicaments dans un autre hôpital. C'est impossible, c'est interdit. Je ne peux pas en faire venir non plus de l'étranger. Il y a un embargo sur les médicaments à cause d'un décret gouvernemental.
D'après les statistiques de l'équipe du docteur Castro, 56% des laboratoires d'hôpitaux du pays sont aujourd'hui hors service. Caracas, Olivier Poujade, France Inter.
Un mot de football avec Nantes, Dijon, Caen et Orléans qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, suite des huitièmes de finale ce soir avec un certain Villefranche-sur-Saône, club de 3e division face au PSG, l'éternel David contre Goliath.
Des femmes maléfiques et vénéneuses pour terminer ce journal.
Des femmes qui n'ont rien à envier aux hommes dans les méandres du pouvoir. Le film de Yorgos Lanthimos, La Favorite, raconte le règne de la dernière des Stuarts à la cour d'Angleterre, donc au début du XVIIIe siècle. Amour, trahison, jalousie, tout y est. Un bijou porté par trois comédiennes remarquables, Corinne Pellissier.
Regardez-moi ! Comment osez-vous ? Fermez les yeux !
L'histoire n'a retenu d'elle que son tempérament capricieux et ses récurrentes crises de goutte. Peu connue en France, peu étudiée dans les écoles outre-Manche, Anne d'Angleterre, incarnée ici par Olivia Colman, a pourtant tout d'une héroïne moderne. Dans ce huis clos, décor somptueux, où ce sont les femmes qui mènent la danse, prélèvent les impôts et ordonnent la guerre. Une histoire sur mesure pour Yorgos Lanthimos qui, depuis 10 ans, décortique nos travers dans chacun de ses films et n'hésite pas ici à tordre les images et à casser les codes pour nous livrer un chef-d'œuvre sur le thème de la rivalité féminine et de l'exercice du pouvoir. Trois rôles de femmes fortes, une reine, Olivia Colman, et ses deux courtisanes, Emma Stone et Rachel Weisz, prêtes à tous les coups bas pour obtenir auprès d'elle la place de favorite.
L'idée pour moi n'était pas de montrer des femmes fortes, mais des femmes réelles, qu'elles soient méchantes, adorables, épouvantables ou stupides, c'est le seul moyen de leur rendre justice, montrer toute leur complexité.
Vous êtes tellement belle.
Cela suffit, vous vous moquez de moi.
Si j'étais un homme, je vous enlèverais.
Allons tuer quelque chose.
Un film en pleine vague de libération de la parole des femmes qui ne passera pas inaperçu, une sorte de liaison dangereuse à la sauce MeToo, entre jeu de force et d'ambition, où l'on complote et l'on empoisonne, absolument jubilatoire et porté par trois comédiennes remarquables.
La favorite favori pour les Oscars avec 10 nominations. Les Oscars qui n'auront pas de maître de cérémonie cette année après le retrait début décembre de l'acteur et humoriste Kevin Hart à la suite d'une polémique sur de vieux tweets jugés homophobes. La cérémonie des Oscars qui aura lieu le 24 février.
Merci Agnès Soubiran.